Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Éclaboussé par l'affaire Epstein, Jacques Lang, convoqué par le ministère des Affaires étrangères à la demande d'Emmanuel Macron, inquiet de possibles répercussions sur l'Institut du monde arabe présidé par l'ancien ministre. Les jeux vidéo violents dans le viseur justement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État va demander à une commission scientifique de se pencher sur l'impact de ces jeux sur la santé mentale des plus jeunes et n'exclut pas de les interdire. Et c'est parti pour deux semaines de glisse. Les jeux d'hiver de Milan Cortina débute ce soir sur RMC, radio officielle de la compétition.
L'étau se resserre ce matin autour de Jacques Lang.
Cité à plus de 670 reprises dans les nouveaux documents de l'affaire Epstein révélés la semaine dernière, le président de l'Institut du Monde Arabe, poussé vers la sortie, va devoir s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain à la demande de l'Élysée. L'ancien ministre est donc convoqué, Romain Cluzel, par le Quai d'Orsay.
Une convocation devant le ministère des Affaires étrangères parce que l'Institut du Monde Arabe, présidé par Jacques Lang, est sous la tutelle de ce ministère. Et cette convocation, elle se fait à la demande expresse d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'entourage du président de la République appelle Jacques Lang à penser à l'institution, une manière pour l'Élysée de pousser l'ancien ministre de la Culture à quitter ses fonctions. Les appels plus directs à sa démission se multiplient ces dernières heures au sein de la classe politique après les révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Des liens financiers avec le prédateur sexuel américain mort en prison en 2019. Jusqu'ici, Jacques Lang exclut de démissionner et évoque sa naïveté face au profil de Jeffrey Epstein.
Nouvel épisode dans le dossier Betaram avec la mise en examen, la deuxième dans ce dossier, d'un ecclésiastique d'une soixantaine d'années soupçonné de viol sur un élève au début des années 90. Ce dernier a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Après les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut s'attaquer aux jeux vidéo. C'est la nouvelle piste du chef de l'État qui élargit son spectre contre les dérives du numérique. Dans une interview aux médias bruts, Emmanuel Macron ouvre la porte à une possible interdiction aux plus jeunes.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violent, qui conditionne à la violence, qui crée une excitation, une dépendance où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants et peut-être qu'il faudra interdire.
Un conseil d'experts va donc être saisi du sujet dans les mois à venir, mais vous allez l'entendre, les professionnels de la santé mentale, Lou Garnier, ne sont pas forcément convaincus d'une telle mesure.
Armes de guerre, combats sanglants, dans de nombreux jeux vidéo, la violence est omniprésente. De quoi transformer le comportement de certains jeunes joueurs, selon Lise Barthélémy, elle est pédopsychiatre.
Ils sont confrontés à un univers virtuel où ils sont dans la destruction. Pour eux, un niveau de violence important, c'est banal. Et donc si à leur tour, ils ont à des moments de difficulté, d'excitation, de débordement, besoin d'être violents, ils vont pouvoir l'être de façon absolument extrême.
Si elle reconnaît que certains jeux violents ne sont pas adaptés à tous les âges, Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les pratiques numériques, estime au contraire qu'ils peuvent canaliser une certaine forme de violence.
Le jeu vidéo de tout type peut avoir un effet défouloir, cathartique.
Et en cas de violence, ce ne sont pas les jeux vidéo le problème, mais des pathologies non diagnostiquées chez les joueurs, selon elle.
Au départ, il y a un trouble, et il se trouve que le trouble, on n'a pas réussi à le voir au quotidien, ni à l'école, ni dans la famille, et qu'à travers le jeu vidéo, d'un coup, la pathologie se voit.
Elle appelle au respect de la signalétique PEGI qui recommande l'âge à partir duquel un jeu est conseillé.
Première nuit en prison pour l'adolescent de 14 ans qui a poignardé sa professeure d'art plastique à Sanary. Il a été placé en détention provisoire hier après sa mise en examen pour tentative d'assassinat. L'enseignante se trouvait toujours dans un état préoccupant hier soir. Et puis ne manquez pas dans le journal de 7h30 le témoignage RMC d'un père de famille. Il est intervenu vendredi dernier pour mettre fin au calvaire d'une jeune fille tabassée à terre devant son collège de Saint-Genis-Laval près de Lyon. Les deux adolescentes de 14 ans mises en cause dans cette affaires ont été interpellées et placées en garde à vue hier. Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'Iran appelle au respect mutuel ce matin avant l'ouverture des négociations de la dernière chance entre Washington et Téhéran à Oman. Discussion bilatérale après plusieurs semaines de tensions entre les deux capitales qui semblent désormais privilégier la voie diplomatique. Il reste pourtant quelques points de désaccord, Inès Zegloul.
loin d'être aligné, ne serait-ce que sur l'ordre du jour de ces négociations. Téhéran s'est montré de son côté très clair, ce sera le nucléaire et rien d'autre que le nucléaire. Mais des garanties sur les stocks et l'enrichissement de leur uranium ne suffiront pas, répètent les Américains. Pour que ces pourparlers aboutissent, disent-ils, eh bien, il va falloir aborder plusieurs sujets. La répression orchestrée par Téhéran sur son territoire, son soutien à certains groupes armés de la région, mais aussi son programme balistique. Autant de lignes rouges pour la République islamique qui ne semble pas prête à flancher, souligne Thierry Coville, chercheur spécialiste de l'Iran. Et ce, malgré le déploiement de l'armada américaine dans la région et la menace de bombardement que Donald Trump laisse planer.
Il essaye de faire peur, de déstabiliser pour arriver à ses fins. Donc pour l'instant, on peut dire que ça fait partie de sa stratégie de négociation.
Un accord ou la guerre, semble dire la Maison-Blanche. Nous disposons de nombreuses autres options que la diplomatie, rappelait hier encore Washington.
Et puis du nouveau, ce matin au Groenland, où la France et le Canada ouvrent leur consulat en opposition au projet américain de prendre le contrôle de ce territoire autonome danois. Carton plein pour le 15 de France, étincelant face à l'Irlande. Hier soir, en ouverture du tournoi Destination, la France confirme son statut de favori. Victoire 36-14 avec en prime le point de bonus offensif, grâce notamment aux deux essais de l'incontournable Louis Biel-Biarré, très en forme hier soir.
Ça faisait quelques années qu'on démarrait le tournoi de manière un petit peu mitigée. Donc là, on est content d'avoir gagné avec le bonus et avec la manière. Même si on a ce petit trou d'air de 15-20 minutes en seconde mi-temps qui nous rappelle à la réalité, qui est que lorsqu'on est de nouveau indiscipliné, on a quelques mots qui reviennent. Oui, je pense qu'on a tous pris du plaisir, que ce soit en attaque mais aussi en défense. On a fait une grosse partie en défense. Mais sinon, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir, que ce soit dans le jeu, on a réussi à faire des belles actions, faire des beaux lancements. Donc je pense que si c'est ça qui l'appelle la flamme, je pense qu'on l'a retrouvé.
Et on retrouvera le 15 de France la semaine prochaine en terre galloise. Ce sera à vivre sur RMC. En attendant, c'est l'autre événement que vous allez vivre sur notre antenne RMC Radio Officielle, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Cortina, en Italie, dès ce soir, avec Christophe Cessieux pour la cérémonie d'ouverture, ou plutôt les cérémonies d'ouverture, Morgane Maury.
Ces Jeux Olympiques d'hiver sont éclatés entre Milan et les montagnes du Nord et du Nord-Est. La cérémonie, ce sera des cérémonies parallèles, le biathlète Émilien Jacquelin.
Ouais, c'est triste ça aussi, hein. Mais je pense que ça fait partie des Jeux du futur où les sites seront un peu plus éclatés et c'est peut-être quelque chose qu'il faut accepter.
Des défilés à Milan, Cortina, Predazzo, la snowboardeuse Chloé Trespeuge va porter le drapeau de la délégation française à Livigno. Derrière elle, les skieurs masculins basés à Bormio feront le court voyage pour l'accompagner comme Clément Noël, l'autre porte-drapeau.
Très content de partager ce moment avec tous les athlètes du site de Livigno et ceux de Bormio qui vont venir, avec Clément Noël, mon collègue porte-drapeau, donc trop chouette, j'ai hâte de vivre ça.
Le biathlète Quentin Fillon-Maillet rêvait d'être porte-drapeau. La proximité de sa première course et la distance avec Cortina l'ont empêché de candidater. Pour ses premiers JO, son partenaire Oscar Lombardo défilera.
Justement, de voir un petit peu aussi le cycle en France, parce qu'au final, nous, on est tout seul ici. Hein. Donc autant en profiter au moins une fois dans ma vie.
Des JO éclatés, une tendance qui va se poursuivre pour les prochains Jeux Olympiques 2030 en France.